partie de cet exode massif des républicains espagnols en février 39. Et voilà, bon, ma famille était en Aragon, dans la province de Teruel en Espagne. Et nous avons, mon père était dans l'armée républicaine, mon frère aîné, ma mère et moi, nous avons suivi l'armée où mon père était rattaché à l'état-major du général qui menait cette retraite, appelons ça comme ça. Et nous sommes arrivés donc en février 39. Pour parler précisément de cet exode et de cette retraite, d'une part c'était la retraite de l'armée républicaine et deuxièmement c'était un exode des civils qui, craignant la guerre et puis la répression franquiste qui était très très, comment dirais-je, terrible, eh bien on suivit l'armée. Et tout ça s'est passé dans la Catalogne française. La Catalogne espagnole d'abord, on est arrivé dans la Catalogne française, c'est-à-dire le grand point de passage a été le col du Pertus. Et ensuite, le col du Pertus, le Portbou également, et ça a mené les 500 000 personnes qui ont fait cette retraite et exode entre les civils et les militaires. Il y avait 500 000 personnes que l'on a internées, que l'on a parquées sur les plages du Roussillon, les camps d'Argelès-sur-Mer, Le Barcarès et Rivesaltes.
Ces 500 000 personnes ont dû faire un exode suite à la victoire du...
C'est-à-dire, c'était l'armée républicaine était en retraite, l'armée franquiste aidée par l'armée allemande, l'armée portugaise et l'armée italienne, eh bien, poursuivait l'armée espagnole, républicaine, et donc faisait la conquête des régions, ville après ville, et ça aboutit à la frontière française.
Les personnes ont échoué sur ces plages et ils ont dû faire face au froid, à la faim, à la maladie aussi.
Oui, alors ces plages du Roussillon ont été vraiment catastrophiques. Il faut aussi dire une chose, c'est que les 500 000 personnes arrivées là en 3 semaines, rendez-vous compte, 500 000 personnes, grosso modo, qui arrivent à peu près en 3 semaines, dans un département des Pyrénées-Orientales où il n'y avait que 250 000 habitants, dont il y a 2 fois plus de réfugiés que d'habitants. Donc le gouvernement de la Troisième République française complètement débordé, malgré les avertissements qu'il avait reçus, eh bien, n'a pas eu d'autre solution que de parquer ces gens en février 39, un hiver très froid en plus, les a parqués sur les plages, bien sûr, à la place sur les plages. Alors ces malheureux réfugiés étaient sur le sable, entre la mer et les barbelés, sous la tramontane. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes, beaucoup de décès, parce que c'était quand même une armée en déroute, des civils qui marchaient depuis des semaines et des semaines. Pour ma famille, l'exode, cette retirada-là, a duré de septembre 38 à février 39, vous voyez. Donc les gens arrivent, ils sont fatigués, affamés, assoiffés, malades, blessés, et bien ils se retrouvent sur le sable. Sur le sable avec des barbelés, et bien sûr, le gouvernement français n'a pas pu tout de suite nourrir 500 000 personnes comme ça. Donc il a fallu attendre quelques jours que des vivres arrivent, des pains, c'est des gros pains, et l'armée française ne rentrait pas dans les camps. Ils jetaient le pain, les gros pains ronds là, ils les jetaient par-dessus les barbelés, par-dessus les barrières qui étaient assez hautes. Ce qui fait que vous avez des personnes qui nous ont raconté, des Oloronais, ils ont fait leur vie à Oloron après, qui nous ont dit, mais ce qui veut dire que les petits ne mangeaient pas. Parce que c'est toujours pareil, quand c'est comme au basket, c'est les grands qui attrapent le ballon. Bon, mais il y avait quand même un sens d'entraide très développé dans la République espagnole, dans l'armée notamment, ce qui fait que les gens, ceux qui attrapaient le pain, ma foi, ils le partageaient avec les copains, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais enfin, il y avait, c'était quand même une situation dramatique. Les femmes en couche qui accouchaient sur la plage, mais le gosse mourait et puis souvent la mère mourait aussi, quoi. Mais très rapidement, il y a une maternité qui s'est ouverte à Elne, un petit village juste à côté, et ma foi, des enfants et des mamans ont été sauvés. Voilà.
Certaines femmes et certains enfants étaient répartis dans des centres d'hébergement.
C'est venu après, c'est-à-dire que le premier choc, ça a été ces 500 000 personnes qui arrivent, et puis ensuite le gouvernement de la Troisième République s'est dit « qu'est-ce que je vais faire avec tous ces réfugiés ?» Et donc il les a répartis pratiquement dans toute la France. Par exemple, ma mère, mon frère et moi, nous ne sommes pas passés par le camp, par les camps. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi, nous avons quitté mon père qui a suivi avec l'armée, et il aboutit donc à Argelès, et nous, eh bien, on nous a fait par Bourg-Madame. Bourg-Madame, que ça se rapproche déjà, c'est vers l'ouest, ça se rapproche de l'Andorre, et là, tout de suite, on nous a mis dans un train. Disons que nous avons eu de la chance, nous. On nous a mis dans un train et nous avons abouti dans un camp qui est dans les Charentes-Maritimes. Voilà. Et tous les autres, eh bien, petit à petit, on les a envoyés. Vous savez, on retrouve des républicains espagnols au Mans, à Rennes, à Briançon. Plus loin, vous voyez, je cite ces noms parce que j'ai des amis qui sont passés par là. Mais il y en avait pratiquement dans tous les départements français.
Ils ont été internés dans ces camps et puis il y en a d'autres qui seront déportés vers les camps d'extermination aussi.
Alors oui, alors bien sûr, le malheur de la République espagnole, c'est qu'elle a été vaincue. La guerre s'est arrêtée officiellement le 1er avril 1939, et le 3 septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale a démarré. La République espagnole aurait pu tenir quelques mois de plus, elle se retrouvait dans le camp des Alliés en septembre 1939, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout l'histoire de l'Espagne, aurait bien sûr changé. Alors donc, ils arrivent, on les met dans ces camps sur les plages, sur le sable, bon, dans des conditions de précarité absolue. Je répète, c'était un hiver très froid, il y avait beaucoup de tramontane. Bon. Et puis ensuite, on a organisé des camps dans toute la France. Moi, j'ai parlé de Charente-Maritime. Et puis, en avril 1939, bon, très rapidement, donc, le camp de Gurs a été monté. Le camp de Gurs avait une capacité pratiquement de 20 000 personnes. Il y avait 400 baraques. Et vous voyez, les gens qui sont arrivés en février, 18 ou 20 000, on a pu les transporter à Gurs. Le 4 avril 1939, le premier convoi est arrivé au camp de Gurs. Bon, d'autres, pour les 500 000, on les a résorbés différemment. Mais donc, ces malheureux républicains espagnols ont connu les camps en bord de mer. Ensuite, les camps, on disait à l'époque les camps de concentration, de Gurs, du Vernet, de Noé. Il y en avait un petit peu partout en France aussi. Et puis ensuite, la guerre mondiale arrivant en septembre, des milliers d'entre eux, toujours pour continuer leur lutte pour la démocratie, pour la liberté, ils avaient été vaincus en Espagne. Mais là, ils ont été volontaires pour s'engager dans l'armée française, pour défendre la France face aux Allemands, aux nazis et aux fascistes italiens aussi. Donc ils se sont enrôlés de ces différents camps, notamment de Gurs, ils se sont enrôlés dans l'armée française, et puis ensuite ça a été le sort des armes. C'est-à-dire que la France ayant été vaincue en mai-juin 1940, comme ils étaient en première ligne, puisqu'on envoie les troupes étrangères en première ligne, c'est d'une logique aussi que l'on peut comprendre. Bon, c'est comme ça. Alors donc, ils ont été faits prisonniers les premiers. Et quand les Allemands, les nazis ont réalisé qu'ils avaient en face d'eux des prisonniers républicains espagnols, donc des ennemis physiques contre qui ils avaient lutté pendant 3 ans en Espagne, et des ennemis idéologiques parce que les fascistes, bon, extrême droite, disons, nazis, et les républicains, républicains, démocrates, etc. Donc, il fallait les éliminer. Donc, ils les ont envoyés, ça a été les premiers, pratiquement, à inaugurer les camps de la mort par le travail, notamment Mauthausen, c'est en Autriche, là-bas, près de Vienne. Donc, beaucoup, beaucoup d'Espagnols, républicains, ont été envoyés à Mauthausen, et il y en a eu ailleurs un petit peu aussi. Et puis après, la politique des camps nazis a continué. Après les Espagnols, bien sûr, ça a été tous les autres. Et puis après, la guerre suivante, ça a été les Juifs, les résistants, etc., etc. C'est l'histoire, là, de la Deuxième Guerre mondiale.
Et après, il faudra attendre 1945 pour avoir le statut de réfugié politique.
Alors, en 1945, effectivement, moi, je me souviens que mes parents, nous avions des cartes de cartes d'identité de résidents privilégiés. On avait au tout début, c'était des cartes blanches qui arrivaient de Genève, c'était des cartes de réfugiés politiques. Et puis très rapidement, on a eu des cartes d'identité, je répète, de résidents privilégiés qu'il fallait renouveler, je crois, tous les 10 ans. Et là, je me rappelle pas bien, mais j'étais quand même un gamin. Moi, à la fin de la guerre, je suis né en 1936, donc à la fin de la guerre, j'avais 9 ans. Alors bon, tous ces détails me dépassaient un peu, quoi.
On sait maintenant combien il reste de personnes de cette année 39.
Eh bien, c'est très difficile à estimer, mais bon, on pense que de ces 500 000 là, une bonne partie, une partie quand même, est repartie en Espagne. Mais bon, on peut considérer qu'il en est resté, je ne sais pas moi, 200 ou 300 000 en France, quoi.
C'est important maintenant de commémorer ces 70 ans de la retirade.
Oui, c'est important parce que l'histoire de l'Europe, bon, de la France et des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, bon, depuis 1945, c'est bien. Mais la République espagnole, la Deuxième République espagnole a été vaincue en 1939, donc. Franco, il est mort en 1975, fait long. La démocratie a été officiellement instaurée en Espagne en 1978, mais cette démocratie, on appelait ça la transition entre la dictature et la démocratie, elle s'est faite à deux conditions. Il ne fallait pas évoquer ni la guerre civile, ni les exilés républicains. Donc l'Espagne officielle a ignoré l'histoire de la guerre civile et n'a jamais parlé des exilés républicains, notamment en France, mais il y en a eu en Amérique latine ailleurs, mais notamment en France. Et ce sont maintenant les petits-fils, en Espagne, les petits-fils des combattants de 36-39 qui disent « Mais enfin, c'est pas possible ça, on ne m'a rien dit, je ne connais pas l'histoire de mon pays. Pourquoi ?» Le républicain espagnol qui a été obligé de rester en Espagne, tous n'ont pas pu partir. Alors, ce qui a posé d'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes, ils ont été traités comme des parias par le régime espagnol de Franco. Alors, ce qui nous permet de dire à nous, moi je suis un fils de combattant, c'est sûr, mais enfin, ça nous a permis de dire, eh bien, nous autres en exil, nous avions la liberté sans la patrie, mais, et les républicains espagnols qui sont coincés en Espagne, ils n'ont pas pu partir, ils ont eu la patrie sans la liberté. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Bon. Alors, reparlons des petits-fils qui maintenant disent « Mais enfin, c'est pas possible. J'apprends tout d'un coup que mon grand-père a été fusillé, il est toujours dans un fossé, ou mon père ou mon oncle a fait 20 ans, 30 ans de prison. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, en Espagne, ils appellent ça la révolte des petits-fils. Le père n'a rien dit, parce que républicain espagnol, il ne parlait de rien à la maison. Il n'évoquait pas tout ça. Parce que si les gamins autour de la table, ensuite, ils apprenaient des choses familiales, et que dans la rue, en jouant après avec d'autres enfants, ils émettaient des avis contraires au régime, etc., le père allait en prison. Ça se passait très mal. Donc le père n'a rien dit. Le grand-père n'a rien dit, celui de 36-39. Son fils, le père actuel, il ne sait rien, puisque le père, son père à lui ne lui a rien dit. Donc c'est les petits-fils maintenant qui disent, on appelle ça en Espagne la révolte des petits-fils. Ils veulent savoir, voilà. Enfin, certains veulent savoir. Vous savez, l'Espagne, une guerre civile, c'est toujours très douloureux. Et cette période, pendant 40 ans, on a dit du mal des républicains. Alors, la société espagnole actuellement découvre l'histoire de la République, de la guerre civile. On lui apprend qu'il y a des gens qui sont toujours dans des fossés, enterrés comme des chiens. Alors, certains veulent savoir, d'autres disent à quoi bon. Et ceux qui étaient, parce que Franco avait quand même des partisans, c'était une guerre civile. Et les familles partisanes de Franco disent n'en parlons pas, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est la situation en Espagne actuellement, c'est pas simple, quoi. Voilà.
Et sur Oloron, on en compte combien maintenant?
Sur Oloron, mais si vous prenez l'annuaire oloronais et des communes environnantes, vous avez des noms espagnols, il y en a partout. Il y en a partout. Parce que d'abord, il y avait quand même une émigration d'avant la guerre civile. Oloron, rappelons-le, était une ville où il y avait des milliers d'emplois. Usines de couverture, de bérets, de sandales, des scieries. Bon, la chocolaterie est toujours là. Messier est toujours là. Mais enfin, pendant des décennies, la misère étant endémique en Espagne, les gens venaient notamment à Oloron de ces vallées aragonaises-là, de Echo, de Anso, de Jaca, etc. Ils venaient à Oloron, ils trouvaient du travail, ils y restaient. Bon, quand la guerre a éclaté, certains d'entre eux sont partis défendre la République espagnole. Parce que de cœur, ils étaient espagnols. Mais ensuite, bon, c'est cette vague qui a, comme je répète, qui a amené 500 000 personnes en France, étant donné qu'il y a eu le camp de Gurs, au camp de Gurs, il y a eu dans les 32 000 républicains espagnols. C'est un camp d'une capacité de 20 000, grosso modo. Ils se sont succédés, à peu près, ils étaient 32 000 en tout. Alors, beaucoup de... moi, par exemple, je suis venu à Oloron, parce que mon père était au camp de Gurs. Lors de l'exode français, celui-là, de juin 40, nous nous sommes échappés, et sachant que mon père était à Gurs, on s'est dit, on va se rapprocher du chef de famille. Et je suis en Oloron depuis juin 40. Bon, voilà. Alors beaucoup de personnes sont en Oloron parce que le père était au camp de Gurs. Bon, alors combien il y en a? Combien il y en a? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais il y en a une multitude, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.